Question d'islam par Ghalib Bensheir. Aujourd'hui, nous parlons de fantasmes. Ah, que vient faire le fantasme avec la tradition religieuse, civilisationnelle, culturelle, islamique? Eh bien, parce que Averroès et le fantasme ont un lien, et c'est le professeur Jean-Baptiste Brenet qui l'a à juste raison établi, mais il nous l'expliquera. Et je suis heureux de recevoir aussi le philosophe Jean-Baptiste Brenet. Bonjour.
Bonjour.
Et merci de nous faire l'amitié de venir pour nous parler effectivement d'Averroès et l'espace potentiel. Ce sont des notions et des concepts que vous allez nous expliquer. Et tout d'abord, pourquoi ce choix, pourquoi cet essai qui nous sert comme base de discussion ce matin chez Verdier. Le titre exact, c'est « Je fantasme, Averroès et l'espace potentiel ». Bien sûr, nous ferons connaissance davantage avec l'homme, avec le philosophe, le penseur, mais aussi quelles sont vos motivations vous-même pour nous avoir produit cet ouvrage.
L'idée, c'est que généralement, Averroès est connu pour avoir produit une doctrine sur l'intellect qui a fait scandale en Occident pendant des centaines d'années. Et donc, on retient d'Averroès, outre ses textes et ses réflexions sur les rapports entre la loi et la philosophie, qui sont fondamentaux, on retient sa doctrine scandaleuse sur l'intellect. Et l'une des idées de ce travail, de cet essai, c'est de dire qu'Averroès a été aussi le penseur de l'imagination ou du fantasme, comme je préfère l'appeler, en quoi je fais la traduction du terme arabe fikr, qu'on traduit généralement par pensée. Et je considère que Averroès n'est pas moins génial dans la théorie qu'il a produite sur le fantasme, qui est un peu la zone intermédiaire entre la sensation et la pensée, que dans sa théorie de l'intellect. Et le deuxième point important, c'est que cette théorie que je trouve géniale de la cogitation, du fantasme cogité, est une doctrine que la modernité, me semble-t-il, a recouverte, a oubliée. Et sur cela aussi, on a des raisons de s'interroger. Donc j'ai essayé de faire ressortir, de faire saillir, réémerger l'un des aspects brillants de la philosophie d'Averroès, un aspect brillant que l'Europe, d'un terme un peu délicat, hérite, puis oublie. Et il me semble qu'il y a là beaucoup à travailler et une belle matière à penser.
Nos auditeurs connaissent Averroès, mais si nous le présentions davantage, ce serait mieux pour réactualiser non seulement sa pensée, mais aussi sa trajectoire de vie. Il est né en 1126 à Cordoue, mort en 1198 à Marrakech, mais inhumé 3 mois plus tard à Cordoue. Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux?
Oui, c'est un Andalou.
Un homme du XIIe siècle.
C'est un homme du XIIe siècle qui a comme contemporain à quelques kilomètres de distance Abélard, Alain de Lille, Jean de Salisbury. C'est un homme du XIIe siècle qui voit les premières années de sa vie très agitées du point de vue politique, puisque à l'Andalus, l'Andalousie sous domination musulmane de l'époque, va connaître un changement assez brutal de régime. Et lorsqu'Averroès a une vingtaine d'années, l'empire des Almoravides va s'effondrer et laisser place aux Almohades. Et Averroès sera un grand serviteur de la dynastie almohade, qui elle-même durera assez peu. Et il va la servir en tant que juge, puisque finalement son grand titre sera d'être grand juge de Cordoue, après avoir été juge de Séville. Il est issu lui-même d'une famille assez réputé, assez célèbre de juristes malikites. Son grand-père, notamment, est célèbre. Il l'est encore aujourd'hui. Il porte le même nom que lui. Donc Averroès, c'est un homme qui a d'abord comme titre principal d'avoir été grand juge au service de la dynastie almohade dans l'Espagne musulmane du XIIe siècle. Mais il n'est pas que cela, parce que il sera médecin aussi. Il écrira d'ailleurs des traités de médecine importants que l'on traduira en latin et qu'on utilisera beaucoup avec le canon de médecine d'Avicenne. Il est juriste, puisqu'il est non seulement juge, mais qu'il écrit sur le droit, des traités importants. Le premier texte d'ailleurs d'Averroès est un commentaire du Mustasfa d'Al-Razali. Et puis il est philosophe, à la fois parce qu'il produit des textes philosophiques presque en son nom propre, notamment, je viens de parler d'Al-Razali, mais un tahafut at-tahafut, c'est-à-dire une destruction de la destruction, qui est une réponse pied à pied au tahafut al-falasifa de Razali, qui était une attaque en règle contre la philosophie, estimant que sur quelques points dogmatiques essentiels, les philosophes étaient infidèles.
Et qu'on traduit là aussi par réfutation, destruction, effondrement des philosophes.
Des philosophes, absolument.
Al-Ghazal des latins.
Et donc Averroès a écrit de la philosophie en son nom propre, aussi par exemple sur les cieux, sur les sphères qui tournaient autour de la Terre, pensait-on à l'époque. Et puis, dernier point qui n'est pas le point le moins important, il est connu comme le commentateur par excellence, avec un grand C, parce qu'il aura passé presque toute sa vie sous des formes variées, de plus en plus approfondies, à commenter presque l'ensemble du corpus d'Aristote disponible. Et c'est à lui que l'Europe juive et latine devra de connaître une grande partie de ce corpus qui avait disparu de l'Occident.
Oui, cet antonomase qui lui colle, le fait de l'appeler le commentateur, pour certains, a commencé sur commande du calife, puisque la dynastie Almohade s'est présentée comme un califat, ben, le souverain Abou Yaqoub Youssouf, qui lui avait demandé, ce qui, dans un premier temps, l'a poussé à se méfier un peu de ce monarque qui demande un commentaire sur des traités de philosophie.
Oui, l'anecdote est célèbre, c'est Ibn Tufayl, son prédécesseur andalou, alors médecin du souverain, qu'il présente au souverain. Et Averroès se méfie lorsque celui-ci lui demande d'éclaircir un peu ce philosophe assez abscon. Et notamment, il lui pose une question sur les cieux. Donc Averroès se méfie, mais très rapidement sa méfiance disparaît lorsqu'il se rend compte qu'il a affaire à un souverain véritablement éclairé et intéressé par le contenu rationnel de la philosophie aristotélicienne. Alors probablement avait-il déjà commencé à travailler sur Aristote au point de se faire une petite réputation qui justifiait qu'on le présentât au souverain. Mais c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, sur commande du pouvoir, ce qui est assez intéressant, il ne va cesser d'affiner ces lectures d'Aristote, produisant d'abord, après les épitomées, ce qu'on appelle les petits commentaires, un peu à tort, des commentaires moyens, puis les fameux grands commentaires qui vont le rendre célèbre dans la latinité chrétienne pendant 400 ou 500 ans.
Alors, un point qui me paraît de la plus haute importance, je le dis comme ça incidemment, c'est qu'à ce moment-là, et même ses prédécesseurs étaient ouverts sur la sagesse des Grecs, et pour eux, Platon ou Aristote était la perfection humaine ou quasi-perfection. Et de nos jours, hélas pour certains, il n'y a pas meilleur et comme fin ultime que le discours ou l'axiomatique du discours prophétique. Alors que là, on était aussi en train de s'inspirer de la philosophie et notamment la philosophie hellène.
Oui, vous avez tout à fait raison. Mais pour Averroès, les deux ne sont pas contradictoires, ce qui fait la grande beauté, la grande actualité, la grande importance de son système. Le premier point, c'est qu'effectivement, Aristote, mais qui n'est pas tout le temps l'adversaire de Platon, représente le sommet de la rationalité humaine. Avec lui, nous sommes entrés dans l'âge de la démonstration, et il suffit presque de recueillir les conclusions de ses syllogismes. La raison n'ira pas plus loin, et avec lui, l'intégralité de l'univers s'explique. Donc il faut suivre la raison aristotélicienne, qui n'est rien d'autre que la raison humaine. Effectivement, l'homme est tout entier fait pour développer au maximum sa rationalité. L'homme, c'est un être intellectuel, c'est l'intellect qui le définit, et l'humanité ne vaut qu'en tant qu'espèce destinée à actualiser son intelligence. Effectivement, le pouvoir que sert Averroès, selon lui, est un pouvoir qui a parfaitement compris cela, et qui ne condamne pas donc la philosophie. Mais en même temps, pour Averroès, cela ne signifie aucunement renier l'islam ou faire mine de croire alors que par devers soi on ne croirait plus, parce qu'il y a, selon lui, un accord parfait pour qui sait l'établir, c'est-à-dire pas n'importe qui, mais les philosophes, un accord parfait entre la révélation, le discours prophétique, tous les discours prophétiques en fait, mais celui de l'islam en particulier, qui est le dernier et le meilleur, et la philosophie, les deux n'étant que deux manières de traduire, de rendre compte du monde, la philosophie le faisant par la démonstration et la raison apodictique, et la religion le faisant sous forme plus métaphorique, en adoptant un discours susceptible de convaincre et de pouvoir être adressé à l'ensemble des, à la grande majorité des hommes qui ne sont pas des hommes de démonstration.
Qui sont sensibles à l'exhortation, et si je devais parler grec, je dirais qu'ils sont sensibles à la parénèse, parce que le discours est parénétique cette fois-ci.
Oui, c'est exactement cela, et de toute façon, c'est comme ça que nous tous nous naissons, même s'il y a des naturels philosophes, même si certains sont destinés à exploiter au maximum leur raison, nous sommes d'abord des enfants, nous entendrons d'abord des discours, des images, un certain langage adressé à une intelligence en germe, et donc il faut tout sauf mépriser cette condition-là, et la religion est un type de discours qui se déploie dans la vérité, et non pas à côté d'elle, et encore moins contre elle, mais qui se déploie dans la vérité sous une certaine forme, qui, pour le philosophe lui-même, n'est pas la forme qu'il doit retenir, mais la forme qu'il faut respecter et diffuser, compte tenu de l'existence d'une humanité variée et qui n'est pas tout entière démonstrative.
Et entre ceux qui sont sensibles à la démonstration et ceux qui sont sensibles à l'exhortation, il y a aussi ceux qui sont sensibles à la dialectique, et pour lui, ce sont les casuistes et les théologiens.
Là, c'est effectivement un cas problématique, mais d'une certaine manière, les théologiens ne peuvent pas faire autre chose que de théologiser compte tenu de leur nature, et de ce point de vue, ils sont respectables. La dialectique théologienne étant d'un niveau supérieur à celui de la rhétorique et d'un niveau inférieur à celui de la démonstration. Le problème, c'est lorsque la théologie se pique de divulguer, de diffuser une complexité théologienne mal assurée qui risque de perturber les esprits sincères, mais plus naïfs, plus faibles, au point de les conduire à l'infidélité. Donc ce que reproche à Véroès aux théologiens, c'est un peu le mélange des genres, c'est-à-dire de n'être pas en mesure de rendre véritablement compte de ce qu'ils affirment et de ce qu'ils diffusent au risque de perdre les fidèles. Or, il est très important de ne perdre personne parce que pour Averroès, c'est un autre point crucial de sa pensée à quoi nous devons penser beaucoup, c'est que il n'y a de survie possible pour l'homme qu'en société. Et donc, tout élément susceptible de ruiner le ciment social est absolument à récuser. Et de ce point de vue, une théologie mal faite, parce que Averroès ne dénigre pas purement et simplement la théologie. Il a bien conscience qu'il s'agit de produire un discours théologique adressé à une certaine partie de la population. Mais il s'oppose à la théologie qui parle trop et trop mal. Et finalement pose des choses qui sont fausses, qui ont l'allure du vrai et qui sont trop complexes pour être comprises, diffusées et vécues par le peuple.
Théologiser, comme vous le dites si bien, c'est aussi étymologiquement discourir sur le divin et tenir un logos sur Dieu. Si c'est bien fait, et de ce point de vue-là, la théologie est la bienvenue, si c'est pour semer la confusion, ben, il vaut mieux peut-être appeler ces théologiens à plus de discernement et puis de sincérité.
Oui, c'est ça, le point très délicat dans cette affaire, c'est qu'au fond, le bon théologien, c'est le philosophe. C'est-à-dire, seul le philosophe est en mesure de produire un discours théologique conforme au vrai, parce que lui connaît la norme absolue du vrai. Donc le théologien dangereux, c'est celui qui n'a pas d'idée véritable du vrai et qui se laisse aller à un certain goût de la dispute et du raisonnement qui a l'allure de la scientificité, mais qui, en vérité, n'en suit aucune.
Et plus tard, le père Chenu dira « La théologie n'est rien d'autre que l'intelligibilité de la foi mise à l'épreuve du temps. »
Exactement.
Bien, passons maintenant, parce que nous pourrions passer toute l'émission sur Averroès lui-même et sa pensée d'une manière générale, mais là, c'est plutôt cette idée du fantasme qui vous intéresse et que vous nous présentez dans votre ouvrage, Jean-Baptiste Brenet. comment la définiriez-vous, ce fantasme? C'est la cogitation plus que la cogitation, entre la cogitation et l'imagination?
Il y a une manière simple d'abord de l'aborder, parce que cela nous permet de retomber sur des choses assez banales que nous connaissons tous. Disons, le fantasme, c'est un produit de l'imagination, l'imagination étant la faculté humaine intermédiaire entre la sensation et l'intellect. Donc il y aurait tout ce qui est de l'ordre du senti, de l'expérience individuelle du monde, tout ce qui est de l'ordre de l'universel, du concept, et puis au milieu, cette zone relativement floue qu'on peut appeler l'imagination et qui produit des images ou des fantasmes. Il y a toutes sortes d'affects, de percepts qui sont, pense-t-on à l'époque, stockés dans le corps et qui préparent le concept. Alors si je m'y intéresse avec Averroès, c'est parce qu'Averroès est un aristotélicien. Et être un aristotélicien, cela signifie au moins une chose à l'époque, c'est qu'on considère qu'on ne pense pas sans image. La grande phrase d'Aristote, un peu contre Platon, si vous voulez, c'est de dire que, certes, le destin de l'homme, son horizon, c'est le concept, c'est la pensée, mais que cette pensée ne sera jamais une illumination, cette pensée n'est pas une science infuse. Cette pensée, c'est quelque chose que l'homme produit, élabore, peut-être pas tout seul, ce qui nous renverrait à quelque chose d'un peu compliqué sur lequel je passe. Mais cette pensée qui nous définit ne peut pas se faire sans notre corps, sans l'expérience que par notre corps nous faisons des choses, et sans le résidu de cette expérience des choses dans notre corps. Et ces résidus, c'est ce qu'on appelle les fantasmes. Donc il y a une place cruciale qui est laissée aux fantasmes, parce que c'est en quelque sorte là que l'homme va trouver la fourniture, le matériau du concept qu'il doit élaborer. Donc le fantasme, contre un peu notre tradition qui voit dans l'imagination une perturbatrice, une perturbation de la pensée, contre une époque, disons, qui serait exclusivement rationaliste, scientifique, et qui voudrait que l'imagination ne soit qu'une diversion devant l'universalité du vrai, eh bien, ces penseurs-là considèrent qu'il n'y a pas d'autre chemin possible pour accéder au vrai que l'image, que les images qui sont dans notre corps. Ça, c'est le premier point important. Le second point qui rend l'affaire cruciale avec Averroès, c'est qu'il est l'héritier d'une double tradition. Cette tradition philosophique d'Aristote, qui considère que l'image est cruciale, centrale, qu'elle est l'interface absolument incontournable nous permettant de passer de la sensation vers le concept. Mais en même temps, Aristote, c'est celui qui dit que l'intellect est séparé. Et Averroès est célèbre pour les commentaires qu'il fera, l'exégèse qu'il mènera au maximum de cette idée d'une séparation de l'intellect. Ce qui veut dire une chose très simple à l'époque, c'est que, pour un aristotélicien comme Averroès, l'intellect ou l'intelligence n'a pas d'organe. Nous sommes habitués à considérer que le cerveau, très évidemment, est l'organe de la pensée. Pour un homme comme Averroès, en tant qu'il est aristotélicien, il est évident que le cerveau n'est pas l'organe de la pensée. L'intellect est la meilleure puissance de l'homme, mais cette puissance-là n'est pas mélangée au corps, n'est pas inscrite dans le corps. Et pourtant, cette puissance séparée du corps ne peut fonctionner sans les fantasmes présents dans le corps. C'est le premier point. L'autre chose, c'est que Averroès hérite non seulement de la pensée grecque d'Aristote, mais de la médecine grecque de Galien, qui aura dans le monde arabe une très très grande importance. Or, ce que Galien apporte contre Aristote, c'est un autre statut du cerveau. C'est qu'avec Galien, depuis lui, et aucun arabe ne pourra le nier, eh bien, le cerveau n'est plus un simple refroidisseur du corps. Le cerveau est un espace où un certain nombre de puissances se répartissent dans différentes cavités qui sont comme des préparations à la pensée proprement dite. Donc Averroès doit combiner la séparation de l'intellect avec l'idée que le cerveau, désormais, ne peut plus être négligé et joue un rôle de préparation en tant que là s'élaborent les fantasmes ou les images nécessaires à l'intellection. Et donc on a quelque chose de tout à fait extraordinaire à l'époque, c'est que un nouveau lieu apparaît, qui est le lieu de préparation du concept. C'est là que se déploie l'espace que j'appelle potentiel, c'est-à-dire l'espace où la puissance de l'homme, qui est la puissance de pensée, va trouver à s'actualiser, parce que là, s'élaborent, s'affinent, sont triturés, les fantasmes qui vont pouvoir donner lieu à de la pensée.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec le professeur Jean-Baptiste Brenet. Vous êtes Jean-Baptiste Brenet, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et vous enseignez la philosophie arabe. Et aujourd'hui, nous parlons justement de l'espace potentiel d'Averroès et nous passons en revue aussi l'idée du fantasme. Nous disions là à l'instant qu'Averroès était une autorité qui disait le droit, qui le produisait aussi, mais en même temps était aussi le commentateur par excellence de l'œuvre du Stagirite. Vous voulez revenir, et à titre personnel, j'ai été très intéressé par votre livre sur ce qui paraissait comme un recouvrement de cette notion du fantasme depuis la cogitation cartésienne. Oui. Et donc, vous pensez que c'est pas que nous nous soyons fourvoyés depuis, mais c'est peut-être revenir à la notion du fantasme, c'est plus fondamental.
C'est-à-dire, il y a un geste cartésien révolutionnaire sur la cogitation. Lorsque Descartes définit la cogitation, il la définit d'une manière presque totale, en incluant dans la cogitation le doute, l'affirmation, la négation, l'intellection, mais aussi l'imagination, mais aussi la sensation. C'est tout à fait révolutionnaire. C'est pas tellement par rapport à Descartes qu'il faudrait se positionner, c'est par rapport à l'appauvrissement moderne que l'on a fait de Descartes, où, dans la notion de cogitation, on ne retient plus que la dimension intellectuelle. Ce que j'essaie de dire, c'est que si un latin lecteur d'Averroès avait lu la phrase de Descartes « cogito ergo sum », lui, naturellement, en lecteur de la pensée arabe, et en particulier de celle d'Averroès, aurait traduit non pas « je pense » au sens de « je produis des concepts, donc je suis », mais il aurait entendu « je fantasme », c'est-à-dire « je produis des images, donc je suis ». Parce que la grande importance de la théorie d'Averroès, c'est effectivement de loger dans le fantasme, de voir que là se joue quelque chose qui concerne proprement l'être de l'homme. Il ne suffit pas de dire que l'homme est un être intellectuel. Il faut penser que l'intellectualité de l'homme est un projet, que ce qui caractérise l'intellectualité de l'homme, c'est d'être à l'état de pure aptitude, de pure puissance, de simple semence, de simple promesse, et que vivre une vie d'homme, pas seulement individuellement, c'est une dimension collective fondamentale chez Averroès, permettre à l'humanité d'être elle-même, c'est lui donner de déployer pleinement son intellectualité. Et la thèse de cet essai, c'est de dire que chez Averroès, bien compris, ce déploiement repose sur l'activité fantasmatique. Ça n'est pas par économie, par court-circuitage de l'image ou du fantasme, comme une certaine modernité voudrait nous le faire penser, que le déploiement de l'intellectualité se fait. C'est dans le corps, c'est dans l'imagination, c'est dans le fantasme, d'ailleurs dans un espace qui n'a rien de strictement individuel, parce que là se croise dans le dialogue la rencontre de tous les corps et de toutes les sociétés et de toute la terre. C'est dans cet espace-là que l'intellectualité se déploie. Et c'est là, me semble-t-il, qu'est l'une des grandes leçons de la pensée d'Averroès, de nous rappeler que tout ne se joue pas dans l'intellectualité, mais dans le fantasme, comme condition de déploiement de l'intelligence humaine.
Et donc fantasmer, c'est agir sur les traces cérébrales produites par l'expérience du monde. Est-ce que vous pensez aussi que le fait d'avoir oublié ça, ou l'occulté, ou l'oblitéré, est dû aussi à la psychanalyse contemporaine?
Si c'est le cas, c'est paradoxal. On pourrait dire que ce serait le cas au sens où tout ce qui est strictement cérébral, physiologique, quoique Freud ait commencé par là, ne concerne pas la découverte proprement psychanalytique. Ce serait paradoxal parce que, par ailleurs, Averroès et Freud ont bien des points communs. Le premier point commun qu'on pourrait voir là, c'est qu'évidemment, Averroès est celui qui rappelle l'importance de la strate infrarationnelle, que tout ne se joue pas dans la conscience du concept, qu'en réalité, le nerf de toute l'affaire, l'espace où proprement tout se joue, est d'ordre infrarationnel. Donc, je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est que on a fait d'Averroès le penseur fou de l'intellect, mais il est peut-être le penseur génial du fantasme, et que nous avons tout intérêt à réfléchir au fait que cette thèse-là, ce statut-là, ait été oublié, recouvert, nié par la modernité. Donc, je dirais plutôt qu'il n'est pas dans la manière que j'ai de voir les choses, l'autre de la psychanalyse. Au contraire, il est un de ses frères, un de ses préfigurateurs, en ce qu'il insiste sur une dimension qui n'est pas nécessairement consciente, la dimension pré-rationnelle du rationnel.
Quelle différence y a-t-il entre pré-rationnel et infra-rationnel ?
Oh, là, il n'y en aurait pas, sinon que le pré-rationnel, peut-être, mais nous forcerions les choses en le définissant comme ça, c'est vraiment l'amorce, c'est déjà une entame de rationalité. Il faut bien voir que nous sommes une puissance mentale, mais cette puissance est animée d'une sorte de tendance. L'homme est ainsi fait qu'il est tendu vers la rationalité. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de semences ou de germes, et au fond, l'infrarationnel ne dit rien de cette tendance. Nous serions là dans l'animalité pure et simple. Alors qu'au fond, l'animalité, la corporéité très réelle de l'homme dont parle Averroès, c'est une corporéité qui, dès le début, est en quelque sorte tendue vers l'intelligence. Et c'est cela qui se joue dans le fantasme.
Et l'homme, de ce point de vue-là, devient un zoon logikon, un animal à la fois rationnel et parlant. Cette rationalité, Jean-Baptiste Brenet, je vous pose la question, c'est cette raison instrumentale, duale, à double critère, avec un tiers exclu, qu'on ne connaissait pas du temps de la mythologie grecque, mais on est passé de l'ère mythique à l'ère historique, et c'est là où on l'a exercé le mieux, où elle est elle-même évolutive, maintenant de nos jours, avec la complexité, avec ce qui appelle à une raison émergente, à une nouvelle rationalité, elle évolue elle-même, et elle est puisée de cet espace potentiel.
Alors, il y a deux aspects. D'une certaine manière, la rationalité dans sa plénitude, dans sa réussite, elle est figée. C'est-à-dire que Averroès n'est pas un homme qui peut envisager le progrès de la rationalité au sens où les limites de l'intelligence humaine ne seraient pas atteintes. Elles sont atteintes. Les limites de l'intelligence humaine sont les limites de l'intelligibilité du monde. Tout ce qu'il y a de pensable dans le monde, c'est cela qui s'offre comme objet à l'homme. Et son idée, c'est que, grâce à Aristote et depuis lui, nous avons les moyens de connaître intégralement l'univers. Cela étant, il faut penser quelque chose comme un progrès, à la fois au niveau individuel et au niveau collectif, parce que ce jeu-là, qui n'est rien que le jeu de l'humanisation, qui n'est rien que le jeu de la culture, qui n'est rien que le jeu de l'intelligence, est à recommencer chaque fois. Chaque vie d'homme, en rapport aux autres hommes, est une vie où se recommence ce chiasme, ce que j'appelle un chiasme, entre l'universalité de l'intelligence, qui est un objectif effectivement fixe, qu'on peut déterminer, et puis la singularité de nos corps, de nos expériences. Et il s'agit d'entremêler, d'entrecroiser cela, c'est-à-dire faire que notre corps et nos vies singulières s'universalisent, se cultivent, et du coup se rencontrent toutes, et faire que cette intelligence un peu abstraite, un peu à la verticale de nos têtes, eh bien, entre dans le monde, s'incarne, entre dans l'histoire, et le lieu de ce chiasme, le lieu où s'entrecroisent ces deux dimensions, c'est précisément l'espace du fikr, l'espace de la cogitation, l'espace du fantasme.
Cette approche chiasmatique concerne le fantasme, et le fantasme lui-même, chez Averroès, si j'ai bien compris, n'est pas uniquement... Où c'est une question que je vous pose, le siège des fantasmata, je parle maintenant comme les Grecs, n'est pas uniquement du côté cérébral, mais est-ce qu'il y a, c'est la question que je pose encore une fois, du côté du cœur qui est considéré chez les mystiques comme l'organe de perception par excellence?
Oui, ben le conflit entre le cœur et ces deux instances que sont le cœur et le cerveau, avec des rejaillissements politiques très importants, est classique. Alors, il est évident que le cœur, pour Averroès, en bon lecteur d'Aristote, c'est le siège fondamental de la sensation. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Averroès est aussi l'héritier de Galien qui, désormais, confère au cerveau un autre statut. Donc, tout ce qui concerne le fantasme est quelque chose qui est inscrit effectivement dans le corps et qui circule entre le cœur et le cerveau. C'est-à-dire que tout commence évidemment avec le cœur, mais le souffle cardiaque se propulse jusqu'au cerveau qui élabore lui-même son propre souffle, et c'est dans cette circulation psychique que les fantasmes se développent. Mais l'importance de cette affaire est de considérer que nous devons dépasser le cadre strictement corporel. Et nous retrouverions la psychanalyse à quoi vous faisiez allusion tout à l'heure. Effectivement, tout a lieu d'abord dans le corps, tout s'inscrit dans le corps. Mais l'espace potentiel, c'est-à-dire l'espace de déploiement, d'expansion de la puissance dont je parle, n'est pas simplement le corps, d'une part. Au fond, il faut imaginer que c'est l'espace de l'expérience que nous ouvre le corps. Premier point. Et deuxième point, non seulement ça n'est pas le corps, mais ça n'est pas simplement l'individu lui-même. Il me semble que l'une des grandes thèses de la pensée rushdienne ou averroïste du fantasme, c'est de nous conduire à penser que dans le fantasme de l'individu se joue plus que l'individu. Et qu'en fait, l'individu qui fantasme rencontre au lieu même de son fantasme, dans son corps, rencontre l'humanité tout entière. Donc, si vous voulez, je parlais tout à l'heure du fameux cogito ergo sum de Descartes. Eh bien, je dirais que avec Averroès tel que je le lis, cogito ergo sum ne veut plus dire je pense au sens de j'intellige donc je suis, mais je fantasme donc nous sommes. Quelque chose de la collectivité humaine se joue dans cet espace potentiel du fantasme.
Jean-Baptiste Brunet, est-ce que cette nouvelle lecture ou cette approche, c'est pour ne plus avoir chez certains de nos contemporains une vision plutôt dépréciative, me semble-t-il, du fantasme, et c'est peut-être pour fonder, sinon une nouvelle métaphysique, au moins une métaphysique réelle à partir du fantasme.
Alors, il y a plusieurs choses. Évidemment que ce que je dis là d'Averroès s'inscrit dans une tradition. Il y a chez les Grecs déjà, qu'on pense seulement à la dianoïa, cette idée de l'interface, évidemment, que jouerait l'imagination, que constituerait l'imagination entre la sensation et l'intellect. Reste qu'il y a effectivement une élaboration neuve, là, avec Averroès, inscrit lui-même dans la pensée arabe, sur laquelle il faut insister. Et cela consiste à lutter contre la dépréciation dont vous parlez à plusieurs niveaux. Non seulement la dépréciation du fantasme et de l'imagination, certes, mais la dépréciation aussi de la pensée arabe en général et de la pensée averroïste ou rushdienne en particulier, dans l'idée que celle-ci ne serait pour rien dans l'élaboration qui, de la scolastique, conduit à la modernité. Donc je pense que, évidemment, il faut sans arrêt, nous sommes loin du compte. On pourrait croire que nous savons tout désormais d'Averroès et du rôle de médiation ou de philosophe qu'il a joué dans l'histoire. Nous sommes loin du compte, me semble-t-il. Et donc, par cet essai sur le fantasme chez lui, j'essaie de contribuer à une revalorisation de sa pensée et de la pensée arabe plus largement dans l'élaboration complexe, paradoxale, de notions clés de la modernité.
Vous avez parlé tout à l'heure du scandale qui concernait la notion, l'idée de l'intellect séparé. Il y a encore un autre, c'est celui de la double vérité. Est-ce que la duplex veritas, donc qui était au centre des débats et du corps de doctrine qu'on appelait l'averroïsme et qui prévalait jusqu'à Pic de la Mirandole, peut-être Pétrarque, peut-être même au-delà jusqu'à Pomponazzi, c'est aussi pour vous, je ne parlerai pas d'une réhabilitation, mais d'une juste lecture et d'une compréhension des thèses averroïstes et de sa pensée et de ses fantasmes.
C'est évidemment crucial. Il faut dire deux choses là. C'est qu'il y a eu un Averroès historique traduit en latin, traduit en hébreu, qui a sa vie propre. Averroès, ça n'est pas simplement Ibn Rushd, c'est aussi un homme qui a sa vie latine. Et si ce personnage-là a soutenu des thèses parce qu'on les lui a prêtées, parce qu'on l'a mal traduit, parce qu'on l'a mal entendu et qu'on l'a mal diffusé, des thèses contraires à l'Averroès authentique, eh bien, nous devons l'étudier quand même. Cet homme-là a existé, donc on ne pourrait pas se contenter de tirer un trait sur 500 ans d'Averroès latin. Et il est vrai toutefois que cet Averroès latin ne doit pas prendre toute la place. Et sur le point que vous évoquez, le paradoxe à nouveau est comique ou tragique, c'est que on a fait soutenir à Averroès, et cela pendant des siècles, l'exact contraire au fond de ce que dans son Fasal Maqal, le discours décisif, il défendait lui-même et qui est d'une importance absolument centrale, à savoir l'idée d'une ittisal, d'une connexion, d'une jonction, d'un accord entre la révélation d'un côté et la hikma, la sagesse ou la falsafa de l'autre, la philosophie de l'autre. Alors ce que vous dites est tout à fait vrai, pendant peut-être 500, 600, 700 ans, on a fait d'Averroès le préfigurateur des brocards libertins, l'homme qui dit « je crois alors qu'il ne croit pas » et qui en vérité démontre par sa raison l'exact inverse de ce à quoi l'on tient par la foi. Alors qu'Averroès est celui qui dit que par la raison, on ne démontre pas l'inverse de l'objet de la foi, mais on démontre autrement, sous une forme apodictique à laquelle n'accède pas la religion, l'exacte vérité, l'exacte même vérité que ce que la religion défend.
Oui. Alors, c'est une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation, ou quelque part, il y avait une volonté délibérée de travestir la pensée averroïste?
Il y a un peu de tout. De toute façon, la chose n'est pas si simple, puisque même aujourd'hui, le débat sur, disons, l'islamité, la dimension musulmane d'Averroès n'est pas absolument clos. Certains en font encore un hypocrite, certains en revanche en font un musulman
accompli.
Je mentirais en disant que les choses sont scientifiquement claires et que cela est sans querelle. Bon. Alors, y a-t-il eu des formations volontaires ou simples mécompréhensions? Ça, c'est aussi, c'est un point délicat. Je pense qu'on ne peut pas avoir de position unique sur cette question. Selon les points de doctrine qui ont été discutés, probablement que la réponse varierait. Il me semble que, compte tenu des textes que les latins lisaient, on ne peut pas ne pas penser parfois à un certain travestissement volontaire, à une certaine mauvaise foi de la part des lecteurs chrétiens. C'est ce que plusieurs fois j'ai écrit sur la question de l'intellect. Sur la question des rapports entre raison et foi, ou plus exactement entre philosophie et révélation, la chose est différente puisqu'il faudra attendre longtemps, c'est-à-dire après les grands penseurs de la scolastique, pour que soient traduits en latin les textes d'Averroès, les textes d'allure juridique qui en parlaient. Donc la question est différente. On ne pourrait pas régler d'une phrase ou d'un mot le rapport de l'Europe scolastique à la pensée d'Averroès.
Alors ça c'est l'Europe scolastique, mais il y a des choses encore beaucoup plus récentes, en tout cas pas allant jusqu'au 19e siècle, et quelqu'un comme Ernest Renan l'a-t-il mal compris ou il y avait quelques sentiments anti-averroïstes?
Oui, le rapport de Renan à Averroès, à la pensée arabe et aux averroïstes est un rapport extrêmement complexe sur lequel on parle beaucoup, pour dire souvent beaucoup de bêtises. Il est évident que Renan était tenu par des préjugés relatifs à l'islam qui sont presque insupportables quand on les lit dans leur brutalité. Donc le rapport à la race, le rapport à la langue, le rapport, tout ça ne va plus du tout. Sur Averroès, il y a chez lui un mélange de fascination et d'horreur. De fascination sur un point qui m'importe beaucoup parce que, au fond, Averroès, pour lui, même s'il ne le dit pas comme ça, c'est un grand penseur de l'humanité. Averroès, Renan, en homme du 19e siècle, est fasciné par l'idée d'un progrès de l'humanité. Et au fond, Averroès, pour lui, c'est celui qui a pensé ce qui constituait la puissance de l'humanité comme telle. Il faut bien relire les pages qu'il écrit sur Averroès, il n'est pas tout entier négatif. il est celui, Renan, qui écrit que, évidemment, si Averroès avait, comme on l'a prétendu, défendu la thèse de l'unicité de l'intellect et de sa séparation et de son éternité, alors ses œuvres mériteraient de figurer dans les annales de la démence et non pas dans celles de l'histoire de la philosophie. Autrement dit, non, Averroès n'a jamais défendu cela. Au contraire, il a eu l'intuition de quelque chose comme une unité de la raison humaine. À quoi, semble dire Renan, nous aussi nous devons croire. Donc, de ce point de vue, Renan est fasciné par l'homme Averroès. Mais par ailleurs, il condamne un grand nombre de ses lectures et de ses attitudes dans son rapport à la pensée grecque, et encore plus chez ses partisans latins, chez qui, alors là, il n'y a plus rien de bon à sauver, parce que ces hommes ne font que répéter une pensée qu'ils ne comprennent pas et ne produisent plus rien qui vaille. Donc là encore, le rapport de Renan à Averroès est un rapport un peu ambigu. Il faudrait presque faire une émission complète là-dessus pour le régler.
Et alors vous venez, et ce sera avec plaisir, et les auditeurs vous en sauront gré.
Ya laitani lughati li a'rifa ma thawa fil qalbi ufsiha kullama indi
ya. Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec Jean-Baptiste Brenet. Jean-Baptiste Brenet est professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et il enseigne la philosophie arabe. Nous parlons encore du fantasme, d'Averroès et de l'espace potentiel. Dans cette dernière partie, ce sont les répercussions de votre œuvre à vous, à la fois comme un lecteur attentif et un averroïste, tout aussi accompli, permettez-moi de le dire. Et quel est, du coup, le message réactualisé, contemporain, de cette lecture où vous remettez en place le fantasme, hormis ses implications psychanalytiques, mais plutôt dans ses implications et ses incidences philosophiques?
Je pourrais dire plusieurs choses, mais la première, d'abord, d'un point de vue théorique, la réflexion d'Averroès sur le fantasme, sur cette médiation du fantasme, ne me paraît pas mineure. C'est-à-dire que, évidemment, je ne crois pas qu'il faille s'y intéresser seulement d'un point de vue historique, pour rendre à l'histoire ce qui appartient à l'histoire. Non, il me semble que la doctrine qu'élabore, la centralité qu'Averroès reconnaît au fantasme, est, d'un point de vue théorique, très féconde. Je veux dire que je tiens à l'idée, qui peut-être n'est pas très à la mode, de l'humanisation, de cette question de l'humanisation. Je tiens qui est importante, c'est assez banal, assez simple de le poser, mais enfin, il s'agit parfois de réactualiser des choses qui semblent bien connues. Je tiens à l'idée que l'intelligence soit un objectif, que l'intelligence ne soit pas une donnée, sans qu'il faille s'interroger sur les conditions de son exercice.
Et pardon Jean-Baptiste Brunet, pour savoir si j'ai bien compris moi-même, est-ce que dans ce cas le fantasme est une sorte d'intermédiaire entre le sens et l'intelligence?
Oui, c'est exactement un intermédiaire, mais si
donc
vous voulez, ça n'est pas un intermédiaire qui simplement, contrairement à ce que j'avançais peut-être au début, nous donne des matériaux, nous donne des objets. L'idée d'Averroès est beaucoup plus forte que cela. Dans le petit livre que je viens d'écrire, j'insiste par contraste sur un terme arabe important du Coran qui est le terme samad, qu'on attribue à Dieu. Dieu dans la sourate...
Un apax dans le Coran,
absolument,
qu'il n'apparaît qu'une seule
absolument,
fois.
Dieu,
qu'on n'arrive pas à traduire.
Voilà, dans la sourate 112, est défini comme samad, et on a beaucoup de mal à le traduire, et le terme étymologiquement désigne quelque chose de plein, quelque chose de massif, quelque chose de dense sur quoi l'on peut s'appuyer.
Et impénétrable.
Et d'impénétrable. Donc le terme est très riche, hein, parce que c'est le pourvoyeur vers qui tout le monde doit venir pour trouver de l'aide. C'est le point d'appui. Mais je m'y suis intéressé à ce terme parce que, par contraste, il sert à désigner la place de l'homme. C'est-à-dire que précisément Dieu, s'il est le plein, trouve face à lui l'homme qui a comme caractéristique, selon Averroès et d'autres penseurs arabes, d'être originairement vide. L'homme est un être à nouveau, disons, paradoxal, pour reprendre ce terme que j'ai beaucoup utilisé, parce qu'il est, pour les Arabes, le sommet de la nature, mais sa supériorité se marque à l'existence en lui, à l'intime de son être, d'une sorte de creux, d'une sorte de pure puissance qu'est son intellect. Il est important de rappeler cela et de comprendre cela parce que cette puissance, ce creux, ce trou qu'il va s'agir de remplir, et le remplissage de ce vide n'est rien d'autre que la vie de l'homme, ce remplissage ne peut se faire que par le fantasme. Et c'est cela le point de vue théorique qui m'intéresse, parce que cela confère au fantasme, à la cogitation, au fikr, une dimension qu'on pourrait dire d'un mot un peu lourd, technique, une dimension ontologique, c'est-à-dire une dimension qui concerne l'être même de l'homme. C'est-à-dire qu'il en va dans le fantasme de l'être même de l'homme. L'être même de l'homme, c'est son intellect, mais c'est dans le fantasme que se joue la substantialisation de cet être même. C'est le premier point théorique qui m'intéresse et qui peut nous donner un objet de réflexion contemporain. Le deuxième point, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est que quand on considère les attaques que la latinité a formulées brillamment, de façon assez géniale, contre le système d'Averroès, on se rend compte qu'on a élaboré quelque chose comme une doctrine prémoderne de la subjectivité en insistant sur le fait que c'était cet homme-ci, que c'est chaque individu qui pense, qui fait usage de son intelligence et que le système d'Averroès vient menacer cette possession personnelle de l'intelligence. L'intérêt de la lecture que je propose, me semble-t-il, d'Averroès, centrée sur le fantasme, c'est de montrer que Averroès, pas moins d'ailleurs que les penseurs arabes, ne nient aucunement cette dimension personnelle de l'intelligence, mais qu'ils placent dans le fantasme l'espace de cette personnalisation de l'intelligence, l'espace de cette appropriation, de cette acquisition de l'intelligence. Et, dernier point qui m'occupe beaucoup, cette acquisition, bien qu'elle revête une dimension tout à fait singulière, individuelle, parce qu'elle correspond à ma vie propre, et qu'au fond je viens loger dans les concepts que j'acquiers les traces de ma vie même, cette acquisition en même temps revêt une dimension collective. C'est ce sur quoi je termine à la fin et qui me séduit beaucoup dans la pensée d'Averroès, c'est l'idée qu'au fond il n'y a pas de pensée sans fantasme et qu'il n'y a pas de fantasme simplement individuel. Que toute activité fantasmatique de l'individu enveloppe, appelle, englobe la fantasmatique venue d'ailleurs. Une fantasmatique globale, une fantasmatique terrestre. Je termine sur l'idée d'une géographie de l'esprit. Et la plus belle thèse d'Averroès, peut-être, c'est qu'il n'y a pas de philosophie possible ici si l'on ne suppose pas qu'elle s'exerce aussi là. Ou, pour le dire autrement comme les latins le reformuleront, les latins favorables à Averroès, il n'y a pas de philosophie possible au nord s'il n'y a pas de fantasmatique au sud. Nous avons besoin des fantasmes venus d'ailleurs, de toutes sortes de fantasmes, sans quoi l'humanité, menacée qu'elle est de disparition, s'effondrerait et la nature se révèle.
Oui. Jean-Baptiste Brunet, à plusieurs reprises, vous avez parlé des penseurs arabes, de la philosophie arabe. Averroès est lui-même de souche arabe, mais est-ce qu'il y a, là c'est dans, ce sont des penseurs d'expression arabe d'une manière générale, ou vous la restreignez uniquement aux penseurs arabes? Parce que si nous allons un peu plus vers l'Est, il y a des penseurs de l'ère, cette fois-ci ailleurs, perse. Et si je, tout en vous écoutant, je pense à la notion de l'imaginal. Et donc ce serait ce topos, ce lieu où les esprits se corporalisent et les corps se spiritualisent. Il y a quelques résonances avec la pensée averroïste ou pas?
Alors il me semble qu'il y a beaucoup de résonances. C'est un sujet qui n'est pas travaillé. Pour répondre à votre première question, je prends arabe en un sens très large, plutôt linguistique et non pas du tout ethnique. Donc la pensée que j'appelle arabe, en fait, englobe bien des penseurs qui peuvent écrire aussi finalement en persan ou dans d'autres langues et qui ne sont pas d'ailleurs strictement musulmans. Y a-t-il des résonances avec l'imaginal sur lequel Corbin a beaucoup écrit? Il me semble que les résonances, les échos sont énormes et que un projet d'avenir serait de repenser tout ce que Corbin a écrit sur l'illuminisme de la philosophie orientale et cet intermonde qui était l'imaginal chez lui, à la lumière de
Un anisme.
Absolument. À la lumière de ce que, dans le champ plus sévère, plus strict, moins poétique, moins enthousiasmant peut-être, du péripatétisme, de la falsafa, avec ce que j'essaye donc, sur ce plan-là, d'établir chez Averroès. On ne l'a pas trop vu. C'est-à-dire que, me semble-t-il, lorsque Corbin parle de l'imaginal, il en parle comme si c'était la marque même de la philosophie orientale et comme si rien n'avait été dit ou pensé d'équivalent avec une aussi grande portée, je veux dire une portée ontologique, que dans la philosophie d'inspiration, disons, soravardienne ou avicénienne. Je crois que on peut, contrairement à ce qu'on a pensé jusqu'alors, on peut établir l'inverse en étudiant sous cet autre angle la pensée d'Averroès.
Jean-Baptiste Brenet, nous arrivons au terme de notre émission. Je ne m'empêche pas de vous poser cette question. C'est vrai qu'elle est hors livre, ce que vous avez produit. D'aucuns disent que il y a eu presque une sorte de divergence au sens premier du terme, comme un peintre qui diverge en cherchant sa bonne couleur, entre la pensée cartésienne, peut-être avec une mauvaise compréhension de la cogitation, et plus à l'est, encore une fois, l'école d'Ispahan et Molla Sadra Shirazi et toute cette métaphysique de la philosophie illuminative.
Alors, il y a, malgré ce que je viens de dire, évidemment une grande différence entre la philosophie d'un Molla Sadra, par exemple, et ce que je développe chez Averroès. Ça, c'est certain. Mais il faut repenser nos anciennes catégorisations. Et vous ne croyez pas si bien dire en posant cette dernière question, parce que je viens d'écrire un article qui s'appelle « Descartes l'arabe », où je montre qu'il y a de l'avéroïsme là où on ne l'attendait pas, peut-être chez Descartes, et que les spécialistes de la pensée cartésienne auraient tout intérêt à travailler, à relire l'histoire de la pensée avéroïste et la doctrine même d'Averroès, pour voir qu'au fond, si Descartes le moderne a gagné contre la scolastique d'un Thomas d'Aquin, et que Thomas d'Aquin s'était opposé à Averroès, d'une certaine façon, cela remet Averroès en selle. C'est quelque chose à quoi l'on ne pense pas, trop occupé qu'on a été pendant des siècles, à faire d'Averroès l'épouvantail, l'astre noir de la pensée européenne. Mais il me semble qu'il y a de l'Averroès dans la modernité, ce qui nous demande des travaux précis, un peu arides, et que en menant à bien ces travaux, patiemment, scientifiquement, nous pourrons revenir sur un certain nombre des partages, des divergences que nous croyons avoir établies jusque-là.
Merci infiniment, merci beaucoup Jean-Baptiste Brenet. C'était Question d'Islam sur France Culture. Chers amis auditeurs, vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. Aujourd'hui, l'attaché d'émission est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée par Julien Domingue et la réalisation est toujours assumée avec l'ami Franck Lilin.
على فراش هوانهم والساهرون على رصيف مستباح الشارع المرصوف بالأوهام كالحلم المباح النائمون على فراش هوانهم والساهرون على رصيف مستباح النادبون لحظهم والباحثون عن الفلاح عن الفلاح الكاتمون صلاتهم كاتمون والعابرون مع الرياح مع الرياح الزورق المنسي عند النهر في وضح السماء صور من المنفى رماها الليل في دربي وراح يا أيها الليل الذي نسي النادى فقية نسي الندى نسي الندى في خافقية نسي الندى خذني إلى بلد توشح بالردى